Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti !
Aujourd'hui, je suis avec Khaled Souf. Khaled, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Oui, en quelques mots, je suis présente comme Globetrotter développeur, parce qu'en fait, j'ai fait 4 pays jusqu'à maintenant en fait en tant que développeur. J'aime bien bouger. Donc, j'ai bossé en Tunisie, en France, au Canada, et aujourd'hui, je suis frontalier, je travaille en Suisse. Donc, voilà. Je suis passionné par le craft. J'ai découvert ça il y a en 2013, à peu près. Et finalement, en fait, ça m'a beaucoup plu. L'approche, elle m'a beaucoup plu du fait, en fait, où on fait de la qualité. On n'est pas forcément focus sur les outils, même si les outils, c'est très important de les maîtriser, mais on est focus plus sur notre mode de fonctionnement, comment on appréhende les choses, comment, en fait, on s'améliore sur en fait, notre artisanat, parce que finalement, en fait, coder, c'est finalement de l'artisanat.
Yes. Et aujourd'hui, alors, de quoi est-ce que tu as envie qu'on parle ?
Alors, ce que j'aimerais parler, c'est plus, en fait, du pragmatisme et de la façon, en fait, d'aborder les outils. Et quand je parle d'outils, je parle surtout des méthodes, que ce soit TDD, que ce soit DDD, que ce soit BDD, qui sont aujourd'hui, je le précise aujourd'hui, les meilleurs outils aujourd'hui pour faire du craft. Mais ça n'empêche pas que demain, il peut y avoir d'autres méthodes qui peuvent subvenir à nos besoins. Voilà.
Qui peuvent émerger. Tu, en préparation de cet épisode, tu me disais que tu voulais réagir un petit peu à l'espèce de clash là qui avait lieu. Je suppose que tu fais référence au clash avec Kevin.
Oui, un peu.
Alors. Donc, cher auditeur, si tu sais pas de quoi on parle, je t'invite à venir suivre sur artisandeveloppeur.fr. J'ai fait un post de récap qui explique un peu cette espèce de drama qui a eu lieu entre Kevin et moi. Et d'ailleurs, c'est pas fini puisque voilà, il y a encore cet épisode qui vient nourrir le drama. On va continuer. Dans lequel Kevin a une thèse sur le fait que ce soit pas une bonne idée de mettre en œuvre des techniques de craft pour les startups early stage. Et autant te dire qu'on n'est pas d'accord, et c'est un peu l'objet, le cœur de l'objet.
Alors, moi, j'ai fait pas mal de startups, juste pour, comme ça, en fait, je mets le contexte que je ne parle pas, en fait, de quelque chose que je ne connais pas. Les startups, c'est très particulier parce que tu dois délivrer de la valeur très vite. Sauf qu'en fait, le vrai problème que moi, je remarque, c'est que, quand les personnes ils sont sous stress, en général, ils vont essayer de laisser tomber en fait leur approche qui est en fait quand ils sont en fait en mode normal, c'est-à-dire en fait s'ils font du TDD, s'ils font du BDD, s'ils font du DDD. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait le cerveau il est comme ça, dans le sens où quand quelqu'un il est sous stress, il va pas faire du sport, il va essayer de rester dans son coin, essayer de manger, il va commencer à accumuler des mauvaises habitudes. Et sur ça, je vais me baser en fait sur un talk d'une amie que je connais très très bien, qui est Dora Bartagiz. Elle a fait un talk en fait en expliquant, en faisant la similarité entre faire du TDD et un régime alimentaire. Faire un régime. Donc en fait, de ce point-là, moi, ce que je pense,
ça m'intéresse vachement. C'est quoi sa thèse ? C'est que faire du TDD, ça équivaut.
C'est comme un régime. C'est comme faire un régime. Donc, en fait, ce qui se passe, ça veut dire que la personne, quand elle est à l'aise, forcément, elle va faire son régime. Donc, elle va suivre, en fait, un régime très strict, en fait, par rapport aux aliments qu'elle va manger. Mais dès qu'elle va avoir, en fait, d'autres facteurs extérieurs qui vont générer un certain stress, elle va commencer à perdre du contrôle sur certains aspects de sa vie.
OK. Donc, ce que tu veux dire, si je récapitule, c'est que tu accrédites plutôt l'idée selon laquelle, en startup, ce soit un contexte difficile, stressant, du coup, moins propice à mettre en œuvre des pratiques du type TDD, c'est ça ?
Inconsciemment, donc de façon inconsciente.
Alors là, tu vois, ça devient intéressant. Tout de suite, on rentre dans le cœur d'un truc. L'analogie avec le régime, moi, je la prends bien volontiers. Parce que des régimes, j'en ai fait plein. Et là, pour une fois, c'est en train de marcher. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est que je suis plus en train de faire un régime. Je suis en train de changer ma manière de m'alimenter. Et pour moi, le TDD, si on continue la métaphore, c'est exactement pareil. Est-ce que tu continues un régime qui demande un effort ou est-ce qu'en fait, tu es en train de changer ta manière de coder ? Parce que moi, sous stress, je suis plus efficace avec du TDD. Et à chaque fois, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que j'essaye de prendre un raccourci en me disant « Allez, ça passe », même sur des trucs, en général, les trucs où je me dis ça passe, c'est des trucs super bateaux. Tu peux être sûr, 8 fois sur 10, si c'est pas 9 fois sur 10, que je fais une merde derrière. Je fais une cagade. Et du coup, à chaque fois, l'espèce, les 1 minute 30 que je croyais avoir économisé, j'en ai perdu 10 derrière. Mais c'est quasiment systématique, tu vois. Donc, le constat empirique que je fais, c'est que je suis plus efficace sous stress avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Alors, c'est là où je vais... En fait, ça dépend de ton niveau de maturité sur les méthodes. Et ça, c'est très important, ce sujet-là, en fait, parce que je voulais l'aborder aussi. Et là, c'est bien, en fait, parce que tu as mis le point là où il y avait, en fait, le problème. Quand j'ai commencé à expliquer, en fait, que le fait que c'était sous stress, il y a une condition très, très importante. C'est qu'en fait, qui va retomber dans ces travers? C'est celui qui, finalement, n'a pas maîtrisé la méthode TDD, n'est pas au pic de performance par rapport à TDD. Et pourquoi ça? C'est parce que tout simplement, cette personne-là, ou la personne en question, elle a pas fait en sorte que TDD, ça devienne une de ses habitudes. Et là, je rebondis, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. Et si TDD, c'est pas une habitude, c'est-à-dire, en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait à chaque fois, en fait, qu'on attaque un projet et que finalement, ça s'est fait de façon inconsciente, on l'a pas injecté dans nos têtes parce qu'on l'a pas fait assez souvent. C'est parce qu'en fait, c'est un mode de, comme tu viens de le dire, c'est un mode, en fait, de codage. Il devrait pas être traité comme quelque chose de plus ou quelque chose de nice to have. Et aujourd'hui, c'est ça le souci. C'est que les gens, par exemple, qui sont en start-up, qui vont tout de suite, en fait, discarder TDD, dans la plupart des cas, si ce n'est tous les cas, c'est des personnes qui vont être, qui en fait, soit ils ont appris TDD un peu tard et finalement ils manquent de maîtrise un peu. Donc en fait, ils sont pas à 100% sur TDD. Soit finalement, en fait, ils veulent faire du TDD, ils n'en font pas et finalement, TDD pour eux, c'est, dans leur tête, c'est quelque chose de pas important. C'est que finalement, ce qui les intéresse, c'est juste de faire le produit, de faire sortir le produit. Donc, il y a deux façons. Soit c'est inconsciemment, soit c'est consciemment qu'ils le font en disant « Ok, je vais cumuler de la dette, entre guillemets, et après, je la récupère plus tard. » Ce qui est complètement faux parce que, à mon sens, les concessions, ils ne doivent pas se faire là. Et c'est là où… C'est un pattern que moi, j'ai vu assez souvent, en fait, quand je faisais du coaching TDD. Les gens, ils font toujours, en fait, les mauvaises concessions quand ils sont sous stress. Et la première mauvaise concession qu'ils font, on va enlever les tests. Alors qu'en fait, il y a tellement d'autres choses sur lesquelles tu peux optimiser.
Bien sûr, on peut gagner. Et encore une fois, même, enfin, j'ai du mal à adhérer à cette idée. Allez, si je me mets dans la position de quelqu'un pour qui faire ça demande un surcoût d'énergie, parce que moi, c'est pas le cas, je gagne de l'énergie. Donc, j'ai du mal même à faire de concessions tout court sur les tests, puisque tu m'enlèves un truc qui m'accélère. Comme si tu me disais, conduis plus vite, tu m'enlèves le turbo. Bah, vas-y, laisse-moi le turbo. Mais imaginons que pour quelqu'un, ce soit encore un effort et que ça le ralentisse. Parce qu'il y a une phase où c'est le cas. Ça dure pas très longtemps, mais il y a une phase où c'est le cas. J'ai perdu ce que je voulais dire. Dis-moi ce que tu disais avant.
Alors, tu disais, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui, finalement, TDD pour lui, ce n'est pas encore... une habitude pour lui.
Ouais, c'est pas encore une habitude, mais moi, si tu veux, quand ça a été mon cas, en fait, quand moi j'ai appris à faire du TDD en startup dans un contexte super tendu, plus tendu, je crois que c'est pas possible. En fait, on avait 3 mois de trésorerie devant nous, et on avait 3 mois pour prouver qu'on était capable de sortir un produit, de le mettre sur le marché. Alors, j'avais pour moi quelques années, on avait passé 1 an et demi sur la techno qu'on utilisait, qui était sous-jacente, qui était Outlook à l'époque. Donc j'avais acquis ça, et justement j'avais tellement souffert pendant 1 an et demi de régression, de galère, de machin, de trucs, vraiment ça partait dans... j'avais souffert vraiment dur, je m'étais dit plus jamais ça quoi, plus jamais ça. Et TDD était devenu pour moi une... en fait c'était une porte de salut quoi en fait, et je me souviens à ce moment de me dire non maintenant, à partir de maintenant c'est fini, je ne fais plus rien sans faire du TDD. Et ça, c'est un pattern qui souvent, je constate chez les coachés, marche bien, ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu décides de ne plus faire autrement. Alors, ça veut dire avoir une espèce de confiance un peu aveugle dans le truc, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance dans ceux qui ont fait le chemin avant toi, de te dire, ah ouais, ça a l'air vraiment trop bien. Mais moi, j'étais en startup, on avait, je te dis, 3 mois de trésorerie, je savais pas si j'allais pouvoir continuer à payer mon crédit, je venais de me marier, Et à un moment donné, j'y suis allé, quoi. Donc, je pense que j'ai appris ça dans les pires conditions qui puissent être. On regarde tout ce qu'on dit. Et ça peut marcher.
Alors, y a deux choses aussi qu'il faut savoir. C'est que, juste en fait, en rebondissant sur ce que tu dis, il faut du courage aussi pour le faire, TDD. Ça, c'est première chose. Parce qu'il y a des gens que finalement, en fait...
Il faut du courage pour l'apprendre, ouais. Parce qu'une fois que tu l'as appris et que tu sais le faire, c'est plus du courage, c'est juste de la lucidité.
Et il faut de la persévérance aussi, parce qu'il y en a ceux qui apprennent, parce que quand tu fais du TDD, tu vas retomber sur d'autres problèmes que avant, en fait, tu n'avais pas. Je donne un exemple typique, et ça, c'est un truc, en fait, qu'on a eu avec Xavier il y a de cela, en 2014-2015. On avait tellement testé nos trucs, et on était en mode TDD, hein, faut être, qu'en fait, on avait un build qui prenait 30 minutes. Et
oui, ah oui, après, tu as des problèmes différents. Oui.
Voilà, c'est ça. C'est que tu as des problèmes différents, et il y en a qui s'arrêtent aussi à ces problèmes-là. Ils se disent, OK, là, je l'ai fait, et finalement, je ne suis pas arrivé. Et finalement, d'accord, et après, on tombe dans les travers où, non, la méthode, elle n'est pas bonne, il ne faut pas en faire. Ouais. Il y a ce cas-là aussi que j'avais vu de certaines personnes où je l'ai fait et ça n'a pas marché. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas allé au bout du problème.
Ouais,
c'est
t'es pas allé au bout de la démarche.
Finalement, ouais. TDD, il va te montrer des problèmes qui existaient déjà, il va les mettre encore plus en examen.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. TDD, pour moi, c'est un révélateur. Il t'apporte aucune solution, il te dit pas va là ou va là, il te dit juste c'est bon ou c'est pas bon.
Alors, l'autre analogie que moi je fais, et ça, beaucoup de personnes qui me connaissent savent que je sors tout le temps, en fait, cette phrase, c'est que si t'as un code smell, si t'as quelque chose, en fait, qui est très mal designé, qui est très mal fait et tout, tu vois le code, tu dis what the fuck. Bah, en fait, tu fais le test, ça fait what the fuck au carré. Donc, en fait, même si tu le vois pas, tu vas le voir encore plus avec le test.
Donc, mais ça... trop, mais tellement, tellement.
Donc, en fait, pourquoi? Parce que le test, c'est ton premier utilisateur, c'est ta première spec. Moi, j'adore que JavaScript, il nomme les tests spec, parce que c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, c'est j'ai quelque chose, une unité, je la teste, je lui donne des entrées, je m'attends à des sorties. Ça, c'est dans le cas où on parle TDD classiste, ou c'est un test de comportement dans le cas où on est sur du TDD London. Je fais ça, je m'attends que ça fasse tel appel, et que ça fasse tel comportement. Et ça, c'est très important à mon sens, parce que TDD, beaucoup de personnes font l'amalgame en disant que c'est une méthode de test. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. On est bien d'accord, c'est une méthode pour coder. C'est une façon pour coder.
Alors ça, je veux bien qu'on s'arrête deux minutes, parce que j'ai un peu fait évoluer les choses là-dessus, dans ma tête. Et cette nuance, elle me... Tu vois, avant, je crois que j'étais un peu dans la lignée de Ken Beck en disant c'est une méthode de design et de conception. Mais en fait, c'est de la merde. C'est pas vrai. Parce que TDD te donne pas de solution de design. Et si t'as pas de compétences de design à mettre dedans, t'es mieux que sans TDD, mais t'es quand même dans le caca. Et ça a été mon cas, moi, si tu veux. J'avais un certain sens intuitif du design qui m'a aidé longtemps. Et c'est quand je me suis mis au TDD que je me suis rendu compte que je butais sur des problèmes de design. Je suis allé chercher des réponses. Là, j'ai découvert le design pattern. Mais tu vois, je les ai découverts après, en fait. Tous ces enjeux de conception, je les ai découverts après avoir fait du TDD. Et là, ça a changé ma vie. Et je me suis bien rendu compte qu'en fait, TDD, il t'apporte pas de solution. Donc, c'est pas vrai. C'est pas une solution de design. C'est une manière de coder.
Une manière de coder, oui. Sauf qu'en fait, t'as plein de prérequis derrière pour faire du TDD. Et ça, c'est le truc que, par exemple, beaucoup de gens ne voient pas quand ils font des katas. Parce que quand ils arrivent dans la vie réelle, ils sont complètement perdus. Alors, j'explique. Il y a un truc que moi, je pousse à mort quand je fais du coaching, surtout. Première chose qu'il faut faire quand tu veux faire du TDD, il te faut une architecture claire et il te faut une stratégie de test pour cette architecture. Je précise, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de test? Parce que le mot, c'est gros. Je parle de stratégie de test pour les développeurs, pas une stratégie de test dans le sens global. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un ensemble de couches. Si je prends l'architecture trois tiers, ou même on prend l'Hexar, qui est en fait un bon exemple, l'architecture hexagonale. Donc en fait, ce que tu vas retrouver sur l'architecture hexagonale, c'est que tu vas retrouver tes adapteurs d'un côté, et tu vas retrouver toute la partie application service et domaine de l'autre. Domaine et application service, pour moi, j'utilise quasiment que l'approche London dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que les application services, ça va être des tests moqués, c'est sûr. Le domaine, éventuellement, ça peut être des tests moqués ou pas, ça dépend, est-ce que j'ai besoin de dépendance ou quoi que ce soit. Par contre, quand je teste la partie qui est sur l'adapteur, ça va être des tests, alors il y a des gens qui appellent ça des tests d'intégration, mais moi, je ne voudrais pas lancer de débat dessus, puisque je pense que le débat, il y a toujours des nuances. Donc, ces tests-là, pour moi, je vais utiliser plutôt une approche en fait TDD classique où finalement il n'y a pas de mock parce que j'ai des
ouais, donc ça c'est ta stratégie test que tu appliques sur ton design. Moi je le vois pas comme un prérequis parce que tu peux très bien commencer par faire du TDD sans avoir de connaissances de design. Par contre je le vois comme des choses qui s'amplifient en fait.
Alors moi ce que je veux dire par là, c'est vrai que c'est ma stratégie parce qu'en fait ça dépend de chacun comment en fait il l'implémente. Mais je la vois comme, comme en fait quelque chose qui finalement peut me faire du bruit quand je fais du TDD. Et du coup, c'est des problèmes en fait un peu connexes qui peuvent, comme tu l'as dit, soit si c'est bien fait, ça va amplifier encore plus dans le sens où vraiment en fait ça va montrer en fait le sens du faire du TDD. Ou alors en fait ça peut retomber sur le cas où je t'ai dit par exemple où il y a le build à 30 minutes parce que tout simplement, pour moi, il y a les tests, il y a deux types en fait de tests. Il y a les tests où je vais commencer à faire, je parle en termes de stratégie, il y a des tests où je vais faire de l'incrémental. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, tu as trois composants qui seront sur trois couches différentes, A, B, C, C de pan de B et B de pan de A. Je teste A unitairement, entre guillemets. Si je veux tester B, il y a deux façons de faire. Soit je teste B en incluant A, et je fais de l'incrémental, donc des tests, ce que moi j'appelle incrémental, soit je me dis, non, en fait, je vais moquer A, parce que je l'ai déjà testé, je voudrais en fait tester uniquement la partie B. Les deux approches se valent parce que tout simplement, tu peux avoir le cas où finalement, tu ne peux pas moquer A, ou alors en fait, tu te dis, je dois forcément moquer A parce que je veux aller plus vite. Et du coup, les deux facteurs que moi j'y pense en fait quand je mets une stratégie de test, c'est deux choses. C'est quelles sont mes dépendances et comment je fais en fait pour avoir une boucle de feedback plus rapide. Parce que c'est ça le but de TDD. Le premier but de TDD, c'est d'avoir une boucle de feedback rapide. Je sais pas si tu as le même sentiment que moi quand tu développes en TDD. Moi, par exemple, si j'ai pas de feedback, je m'essouffle en fait. Alors que quand j'ai un feedback, c'est une espèce de repos. Quand je lance le test et que j'ai mon feedback, j'ai une espèce de repos et c'est comme si, en fait, je prends une pause et après, je reprends par la suite. Ça, c'est le sentiment que moi, ça me donne, en fait. C'est en fait, si j'attends trop longtemps pour lancer mes tests, j'ai l'impression que je suis fatigué, en fait. J'ai fait beaucoup de code et je suis fatigué. Alors qu'en fait, dans l'autre sens, j'ai l'impression que pouf, je fais un petit pas et après je me repose, je fais un petit pas et je me repose en fait.
Moi, ça me donne plus un sentiment d'être guidé et de savoir que je vais dans le bon sens et dans la bonne direction. Ça me rassure. C'est comme si j'avais un peu une espèce de... Ouais, tu vois, un GPS sur moi qui me permet avec... j'ai ma boussole, mon compas et mon GPS. Et régulièrement, je regarde si je suis sur la piste de mon GPS. Quoi. Et ça me rassure. Je me dis, ouais, ok. Là, c'est rouge. Est-ce que c'est rouge pour la bonne raison? Ouais, c'est rouge pour la bonne raison. Ok, on fait un pas de plus. Donc moi, ça me donne le sentiment plutôt d'être confiant sur le fait que je vais dans le bon sens.
D'accord. Moi, par exemple, de ce côté-là où, en fait, je comprends ce que tu dis. Moi, il m'arrive souvent, par exemple, quand je n'ai pas fini ma tâche et c'est la fin de journée. Par contre, le lendemain, quand je reprends, je sais dans quel test je me suis arrêté et qu'est-ce qu'il me reste à faire.
Moi, quand c'est comme ça, j'aime bien laisser un test rouge.
Oui. Alors
je le pousse pas pour pas
oui,
que ce
oui,
soit sur la CI, mais j'aime bien laisser avec un test rouge. Comme ça, le lendemain, quand j'arrive, je me pose pas 15 ans la question. J'en suis où? Ah ouais, ben c'est lui. Allez, hop, je reprends mon fil, quoi. Direct.
C'est exactement ça aussi. Pour moi, c'est magnifique, en fait, TDD, quand tu fais du changement de contexte. Quand, par exemple, en fait, t'étais sur un contexte, ça peut être n'importe quoi, le contexte. Au milieu de journée, t'as une réunion, on te bloque, on te dit, ah non, tu dois y aller forcément, et du coup, tu t'arrêtes. Et quand tu reprends, t'as déjà quelque chose qui est clair, en fait. T'as pas besoin de, et du coup, ça fait une espèce de deuxième cerveau, en fait, TDD.
Mais c'est trop ça, en fait. Tu as raison sur le changement de contexte. Tu vois, moi, l'image qui me vient, c'est plus quand je change de branche. Je suis en train de travailler sur un truc, j'ai besoin de revenir sur une autre branche 2 secondes pour un support ou je sais pas quoi. Bon, ben, je vais commiter là où j'en suis. Je change de branche. Et là, je suis vachement rassuré. J'ai pas à me poser 50 ans la question de, attends, est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis pas en train de casser un truc, mélanger les contextes. Ah oui, mais j'avais essayé, j'étais en train de faire ça, ou, ah mince, j'ai plus cette classe, mais c'est normal, c'est sur l'autre branche. Ben, juste, je me pose pas tant de questions que ça. Je vais regarder mon test. Je crée mon test rouge. Quand il passe, c'est bon. Allez, je commit, je pousse et je reviens sur ma branche, tu vois. Donc, ce que tu dis est très vrai, en fait. Ce coup de changement de contexte est très fort. On est déjà à 20 minutes et j'essaye de
Oui.
revenir sur des timebox plus raisonnables. Et je crois pas que tu aies pu exprimer ce qui était un petit peu le message que tu avais envie de porter par rapport au fait de maîtriser les méthodes et pouvoir ou pas s'en écarter, en fait.
Alors, j'ai une approche très particulière quand, par exemple, j'essaie de maîtriser une méthode. C'est que généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je mélange un peu entre théorie et pratique. Et c'est ce que j'ai fait, par exemple, à l'époque, quand j'ai appris TDD. Et quand je sais que plus ou moins, en fait, je commence à peu près à maîtriser ce qu'il y a, je reviens à l'essence, en fait, de la méthode. Comment je fais ça? C'est très simple. Je vais essayer de chercher qui a créé la méthode. Et je vais essayer de voir soit les articles, soit le livre, parce que généralement, il y a toujours un livre qui est derrière. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour TDD, c'est que je suis revenu sur le livre de Canbeck pour les TDD classiques, qui est TDD by Example. Et en fait, j'ai essayé de maîtriser l'essence. Et c'est là où je commence en fait à passer sur les phases de pragmatisme. Parce que pour moi, toute approche, toute méthode, tout outil, il y a deux choses qu'il y a dessus. Donc, on passe par une phase d'apprentissage et de dogmatisme. Il faut passer par ça pour être en fait, pour rester dans le mode puriste. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas justifier ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas justifier en fait les raisons pour lesquelles on les fait de telle ou telle façon. La référence que moi j'ai, si je ne sais pas si tu as lu le livre en fait qui fait partie aussi de la collection un peu craft qui s'appelle Apprenticeship Pattern, il parle de ça. Il dit ce qu'on appelle en fait emptying the cap, c'est-à-dire quand tu attaques une méthode, quand tu veux apprendre une méthode, oublie tout ce que tu connais avant et en fait va jusqu'au bout de la méthode. Et après, quand tu maîtrises cette méthode, là, commence à critiquer, à voir dans quel cas tu peux l'utiliser, qu'est-ce qui peut être changé, quelle partie où tu peux faire des concessions. Parce que, comme tu le sais, notre vie de développeur, c'est une vie de concessions, en fait. À chaque fois, on est en train de faire des concessions, des trade-offs, ce que les gens, ils appellent. Donc, en fait, quand je suis revenu sur ce livre-là, il y a plusieurs choses que j'ai retenues. La première, c'est que, en fait, tu as le droit de brûler des étapes quand tu veux y aller. Mais toutes les étapes ne sont pas, tu peux pas les brûler. Il y a des étapes, il y a des axiomes très très clairs. Donc chaque méthode, elle a des bases très très solides et après, tu as des endroits où tu peux jongler un peu et du coup, ça dépend de la compréhension des gens, ça dépend de comment ils voient les choses. Comme tu viens de le spécifier, par exemple, moi j'ai eu cette stratégie de test pour l'archi-exa, d'autres, ils en ont d'autres. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai raison et les autres, ils ont tort. Ça veut juste dire que moi, je l'ai exprimé de cette façon. Ma compréhension, elle est partie sur ça. Les autres, en fait, ils l'ont compris d'une autre façon. Et c'est là où moi, je vois les choses. C'est que finalement, si tu es tout seul, tu vas rater plein de choses. L'importance de la communauté craft, c'est ça. Parce qu'en fait, tu peux le voir comme un diamant et chacun y voit une facette. Et c'est très intéressant de voir qu'est-ce que les autres facettes ils y vont. Donc, je rebondis sur le livre. Le livre, pour être plus précis, j'ai appris, la première chose que j'ai appris, c'est que Ken Beck, il voulait juste séparer deux choses. La première, c'est comment je fais pour avoir quelque chose qui marche tout de suite et comment je fais pour améliorer ce quelque chose qui marche tout de suite vers quelque chose de plutôt maintenable. Comment dire, tout le monde peut le lire, qui est simple en fait à maintenir. Et en dissociant ces deux phases-là, c'est comme ça en fait qu'il a créé TDD. Donc il y a le red qui est en fait la création du test, il y a le green qui fait que je le fasse passer le plus vite possible, et il y a le refactor où je suis en train d'améliorer en fait mon code en fait en général. Et pourquoi en fait je reviens toujours à ça? Parce que pour moi, c'est dommage que tout le monde fait du TDD et que chacun, il l'a appris par un moyen. C'est dommage que, par exemple, tout le monde me parle d'un film, alors que moi, je ne suis pas allé voir le film lui-même pour me faire ma propre idée sur le film. C'est comme ça que je la vois. Là, par exemple, sur le mouvement Craft, le livre qui a tout déclenché, et je trouve dommage en fait, qu'il a moins de succès que les autres, qui est en fait Pragmatic Programmer, où il y a même une édition 20 ans qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est là où moi, je vois qu'on perd en fait cette essence-là. Parce que soit on va se retrouver avec du dogmatisme pur, soit on va se retrouver avec des personnes plutôt avec du pragmatisme, mais sans pour autant avoir les bases pour faire du pragmatisme. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que les deux, ils sont complémentaires. Il faut plutôt en fait faire les deux et faire un passage par les deux. Et forcément, on arrive à une phase où on est un peu hybride. Sur certaines parties, on est dogmatique. Sur d'autres, on est un peu plus pragmatique. C'est comme ça que moi, je le vois. C'est-à-dire, pour moi, la maîtrise de TDD, c'est le dogme sur certaines choses et c'est pragmatisme sur d'autres choses. Et là, par contre, ça diffère d'une personne à une autre, comment elle interprète la méthode. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que c'est là où il va y avoir en fait un échange entre les personnes sur ce côté-là. Où est-ce qu'on est dogmatique, où est-ce qu'on est pragmatique. Et là, il y a beaucoup de nuances. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Bah écoute, j'aime bien, c'est ton point de vue, ta manière de voir les choses, et je suis plutôt assez aligné. Moi, ce que je réfléchissais à comment rebondir sur ça, le truc que ça m'inspire, c'est que avec le passage à l'échelle du mouvement, le phénomène que tu évoques, où il y a une espèce de perte de l'essence de la méthode et des sujets dont on parle, il est inévitable en fait. C'est parce que au début tu vas avoir une poignée de passionnés qui vont faire ce travail, qui vont chercher à comprendre, qui vont se poser des questions, qui vont aller au bout du truc. Et puis plus le mouvement va prendre en ampleur et plus les termes vont se diluer, plus la compréhension des uns et des autres va diverger. Moins la cohérence sera possible parce que justement il y aura trop de monde. Quand tu pars d'une communauté où il y a 20 personnes qui se regroupent régulièrement versus une communauté où tu as des milliers de personnes éclatées sur tout un territoire. Tu vois, donc... et même, j'ai envie de dire, c'est la rançon du succès, finalement. Je pense que des gens comme toi, comme moi, qui ont œuvré pour que le craft soit connu et atteigne un maximum de monde, on doit se réjouir de ça. Parce qu'en fait, c'est normal. C'est juste inhérent au fait que le mouvement prenne de l'ampleur et qu'il y ait du succès.
Tu m'as rappelé une petite histoire que moi, j'avais. En 2014 ou 2015, en fait, on avait fait un échange entre Zenica et 8Light. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, la boîte. 8Light, c'est la boîte d'Uncle Bob.
D'accord, ok.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un software crafter qui est venu en France. Et moi, je suis allé en fait à Chicago pour bosser avec les équipes de Chicago d'Uncle Bob, pour essayer de voir comment ils font du craft et tout. Et c'était à ce moment-là que moi, j'ai découvert que nous, on est en France, on est très, très à cheval sur les méthodes. On est très strict. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais ce que j'ai remarqué là-bas, c'est qu'ils étaient extrêmement flexibles sur plein de choses. Et je parle surtout de l'approche, par exemple, TDD, comment ils le font. Comment ils apprennent ça. Donc, ils étaient plus en mode où... Et c'est là, justement, que j'ai découvert cette approche-là où on doit être vraiment ferme sur certaines choses, où on est d'accord, ça, c'est les axiomes. Et on doit être, en fait, on se dit, non, là, j'ai un curseur sur lequel, en fait, je peux jouer. Est-ce que je le mets là, je le mets là, je le mets là, selon les contextes, selon les choses et selon les... Et en fait, c'est vrai que j'avais oublié ce moment-là qui était en fait le moment de déclic pour moi sur celle-là. Parce qu'à l'époque, j'étais, il y en a qui me connaissent bien, en fait, je suis très puriste sur certains concepts, sur certains aspects et tout. Et c'est là où ça m'a ouvert les yeux en disant, mais finalement, en fait, premièrement, c'est que l'approche, forcément, elle ne détient pas la vérité absolue. Deuxièmement, les gens qui ont créé ces méthodes, c'est plutôt, je les vois maintenant comme des retours d'expérience. C'est comme si, tu vois, j'étais assis ici, j'étais en train d'écouter ton podcast, ou j'étais en train de voir, en fait, une interview de quelqu'un. Donc, c'est une Rex, en fait. C'est grosso modo, en fait, toute
l'expérience. C'est une Rex structurée dans une méthodologie reproductible.
Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu commences à nuancer tout ce que tu lis. Tu commences à se dire, OK, là, il y a quand même du subjectif, il y a quand même, il faut pas prendre le truc. Par contre, en fait, bien sûr, vu que c'est une Rex, donc il y a beaucoup de choses, à mon sens, qui sont bonnes à prendre. Quand tu lis, tu dis, OK, ben là, je suis sorti avec quelque chose. Il y a quelqu'un, il le fait d'une façon très différente de moi. C'est pas mal. Je vais peut-être essayer de tester là. Et c'est là, en fait, on commence à voir vraiment, en fait, l'esprit craft en se disant, on ne détient pas la vérité. C'est très sympa d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est quoi l'impact? C'est que ça veut dire, c'est des opportunités d'apprentissage de mon côté. Et c'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est des opportunités où moi, j'avais pas vu et maintenant je vois parce que ces gens-là, en fait, ils m'ont ouvert les yeux sur ces opportunités-là.
Moi j'aime bien cette idée que les divergences de points de vue soient source d'enrichissement, parce que je vois trop souvent des confrontations qui sont plutôt au contraire anéantissantes, où une vision des choses cherche à convaincre l'autre. Et tu vois, c'est par exemple sous cet angle-là que j'envisage le débat avec Kevin, parce que justement on est tellement pas d'accord et de manière tellement assumée que je me dis chouette, on a enfin une occasion d'avoir une discussion construite autour de ça et pas juste de se taper dessus à coup de non mais t'es un abruti quoi.
Oui, je vois.
Donc c'est sur ça que je te propose qu'on conclue l'épisode.
Oui.
Toute divergence est une occasion de s'enrichir. Je trouve que c'est une belle leçon. Merci Khaled. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ton travail, te suivre, ils peuvent venir où?
Alors, s'ils veulent découvrir un peu plus qu'est-ce que j'ai fait comme expérience, vous pouvez regarder un des anciens épisodes que j'ai fait sur Dev Journey. C'est en anglais. Je suis désolé, la plupart des talks que je fais ou des podcasts sont en anglais. Il y a aussi, pour le travail, je suis sur LinkedIn, sur Twitter. Si les gens ils peuvent me contacter, je suis très accessible. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas... Généralement, je réponds si vous n'êtes pas un recruteur.
Il ne mord pas, hein. Je confirme, il ne mord pas.
Oui.
Je confirme, il ne mord pas.
Donc, vous pouvez y aller, même si, en fait, quelquefois, je réponds pas tout de suite, mais c'est sûr, en fait, en général, je reviens sur le message et je vous réponds. Alors, si vous voulez me suivre, je suis aussi sur la communauté craft. Je fais quelques talks. Le dernier, je l'ai fait, je crois, avant juste les vacances, en fait, de Noël et tout. Vous avez Tech Excellence où je parlais... de pas mal de choses. Vous pouvez me trouver sur YouTube, sur Coding Legacy Code, qui ont fait une conf. J'en ai fait deux épisodes. Vous pouvez me retrouver aussi avec YouTube en parlant de TCR, parce que je parle beaucoup de TCR, Test Commit and Revert, parce que je l'ai fait sur des projets réels. Donc, c'est pour ça que je m'estime que j'ai la légitimité d'en parler. À part ça, j'ai mon site web qui est ksouf.com, où là, vous avez toutes les infos qu'il y a pour me contacter. Quoi que ce soit. Voilà.
Merci Khaled.
De rien.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu as réussi à rater le clash avec Kevin, je t'invite à venir sur artisandeveloppeur.fr et regarder l'article qui parle de ça, qui fait un résumé. D'ici là, en plus, d'ici qu'on publie cet épisode, il y a sûrement des choses nouvelles qui auront apparu. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.